Merci de rester avec nous à l'écoute de RFI, les midis à Paris, 10h en temps universel. Le journal, c'est tout de suite avec vous, Gilles Moreau. Gilles, bonjour.
Bonjour Caroline, bonjour à tous. Dans l'actualité, la guerre commerciale mise en pause par Donald Trump. Après avoir décrété une hausse spectaculaire des droits de douane, il a décidé de suspendre la mesure pour tout le monde, à l'exception de la Chine. Cette pause est applaudie par les marchés. La bourse a repris le chemin de la hausse. La France pourrait bientôt reconnaître un État palestinien. Les réactions à l'annonce d'Emmanuel Macron sont contrastées, y compris dans la classe politique française. Dans ce journal aussi, la Birmanie. Deux semaines après le séisme meurtrier, l'aide humanitaire ne parvient toujours pas aux zones rebelles. Et en football, le Paris Saint-Germain, victorieux d'Aston Villa, toujours dans la course en Ligue des Champions. Depuis ce matin, les bourses mondiales ont repris le chemin de la hausse, revigorée par la volte-face de Donald Trump sur les surtaxes douanières, plus 7,5% à l'ouverture de la bourse de Paris, 6% à Londres, 8% à Francfort. La débâcle d'hier sur les marchés s'est transformée en euphorie. Le président américain y a annoncé pour tous les pays une suspension pendant 90 jours des taxes à l'importation, à l'exception très notable de la Chine. Les droits de douane américains restent à 125% pour les produits chinois. De son côté, la Chine a imposé des surtaxes de 84% aux importations américaines. Le chef de la Maison-Blanche s'est dit ouvert au dialogue avec son homologue Xi Jinping. Celui-ci reste pour le moment discret, mais ne semble pas vouloir céder. Donc, le bras de fer continue, Claire Broadhurst.
Ces chiffres presque irréels ont une conséquence très concrète. Tout ce qui circule entre les deux premières économies mondiales devient hors de prix. Un jouet fabriqué en Chine, un composant électronique, un vêtement, son prix pour les consommateurs américains peut plus que doublé. Et côté chinois, acheter du maïs, du soja ou des voitures américaines devient un luxe. Résultat, les échanges se figent, les entreprises étouffent et l'incertitude grandit. Cette logique œil pour œil, dent pour dent ravive le spectre d'un découplage économique durable entre la Chine et les États-Unis. Pékin, de plus en plus méfiante, cherche à renforcer ses liens avec d'autres partenaires comme l'Union européenne, avec qui le dialogue reste ouvert. Et dans ce bras de fer, Xi Jinping mise sur un silence stratégique. Pas de déclaration publique après les nouvelles surtaxes américaines, mais en interne, il donne le cap. Renforcer les alliances régionales et sécuriser les chaînes d'approvisionnement. Et il délègue les mots durs aux diplomates et aux blogueurs patriotes. Car pour Xi Jinping, ce conflit dépasse l'économie. C'est une épreuve politique existentielle pour la légitimité du parti. Le compromis devient alors quasi impossible. Mais une question reste en suspens. Qui cèdera en premier? Claire Broadhurst, de Pékin. RFI.
On vient de le voir, les droits de douane américains restent à 10% pour tout le monde, sauf pour la Chine. De quoi décontenancer plus d'un docker dans le port de Los Angeles qui a vécu hier une journée très particulière, Loïc Piala.
À 115 mètres au-dessus du sol, depuis le pont Vincent Thomas qui connecte les deux ports de Los Angeles, la vue est spectaculaire. Des milliers de conteneurs qui attendent à quai, qui sont déchargés des navires par des grues gigantesques ou qui rejoignent l'autoroute accrochée à des poids lourds. Et à Long Beach, presque deux tiers des marchandises dans ces conteneurs arrivent de Chine. Le port craint une baisse de volume de 20% dans la deuxième partie de l'année si les tensions commerciales entre Washington et Pékin ne se calment pas. Moins de conteneurs qui rejoignent les États-Unis, c'est moins de travail pour les dockers et les routiers.
Incertitude est le terme le plus adapté pour décrire la situation.
Gary Herrera est le président de l'antenne locale du syndicat ILWU. Il représente 9000 dockers.
Ces navires, plutôt que de venir jusqu'à Los Angeles ou Long Beach, pourraient aller au Mexique ou au Canada et leur cargaison serait ensuite acheminée à l'intérieur du pays par train.
Le syndicaliste s'inquiète aussi pour les petits commerces qui dépendent des deux ports et pour les victimes des incendies du début d'année.
Ils dépendent de certaines importations pour reconstruire leur logement et si les droits de douane perturbent l'arrivée des marchandises dans le pays, on se dirige vers des moments difficiles pour beaucoup de monde.
Un espoir, le gouverneur de Californie veut négocier des droits de douane spéciaux pour son État, le plus gros importateur du pays. Loïc Piala, Long Beach RFI.
Une reconnaissance de la Palestine par la France serait une récompense pour le terrorisme. Ainsi a réagi le ministre israélien des Affaires étrangères au projet dévoilé hier par Emmanuel Macron. La France pourrait reconnaître dès le mois de juin un État palestinien. À l'inverse, une ministre palestinienne a salué l'annonce française, y voyant un pas dans la bonne direction. En France, la classe politique est partagée, mais dans l'ensemble, les réactions sont favorables. Ce matin sur France Inter, la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, a préconisé une solution à deux deux États, mais avec des garanties de sécurité pour les deux. Direction maintenant la Birmanie, secouée il y a 2 semaines par un violent tremblement de terre. 2 semaines après, l'aide humanitaire n'arrive toujours pas dans les zones rebelles. Pourtant, de nombreux réfugiés vivent dans ces zones rurales. Des familles qui avaient déjà fui le conflit entre la junte et les rebelles. Le séisme a également fait des ravages dans les camps de réfugiés et les monastères où s'abritent de nombreuses familles. Reportage d'Esther Lebleu.
Sur les hauteurs de Sagaing, la ville la plus meurtrie par le tremblement de terre, les temples construits dans les collines sont eux aussi effondrés. La zone est un repère de combattants anti-junte. Les monastères jouent depuis toujours en Birmanie le rôle de refuge. Ici, au monastère Miawadi, une vingtaine de familles en provenance du nord est arrivée il y a près d'un an déjà pour fuir le conflit. Ils vivent sous des bâches et mangent la nourriture donnée au temple par des locaux. 8 personnes de leur groupe sont mortes dans le séisme. Ongmin a 38 ans, il a perdu sa femme, il a 3 enfants, dont un bébé de 7 mois.
On est venu ici car sinon on allait finir par mourir dans une frappe aérienne de l'armée, comme des centaines de villageois dans notre district. Ou alors, mes compagnons et moi, on aurait été enrôlés de force dans l'armée birmane. Je me serais bien battu aux côtés des groupes anti-juntes, mais je ne voulais pas abandonner ma famille. Les moines nous laissent rester au monastère si on travaille à la construction, à l'entretien. Il y a un programme de méditation aussi. On avait l'impression d'être en sécurité. Ici.
Parce que le monastère se trouve dans les collines fréquentées par les groupes rebelles et que les routes pour y accéder sont escarpées, ces réfugiés n'ont même jamais entendu parler d'aide humanitaire. Habitués à une vie de privation, ils attendent la fin du conflit pour pouvoir rentrer chez eux.
Reportage à Sagaing en Birmanie d'Esther Lebleu. Avec au moins 184 morts, le bilan de la catastrophe de Saint-Domingue continue de s'alourdir. Les secouristes ont pratiquement perdu tout espoir maintenant de retrouver des survivants dans les décombres d'une discothèque dont le toit s'est effondré pendant un concert. En football, le Paris Saint-Germain a pris une réelle option pour atteindre le dernier carré en Ligue des Champions. La qualification en demi-finale est en vue après la victoire contre Aston Villa 3-1 hier soir au Parc des Princes. Le champion de France en titre a dominé son adversaire, prenant un réel avantage avant le match retour. Cédric De Oliveira.
3-1, victoire du Paris
Une victoire, des buts splendides et le dernier carré de la Ligue des Champions qui se profile. Les supporters du PSG se sont régalés au Parc des Princes.
C'est magnifique, c'est à chaque fois on est mené, on arrive à gagner, c'est formidable quoi. Voilà, un bon entraîneur, des super joueurs, un collectif, tout va bien.
Comme contre Liverpool au tour précédent, Paris a impressionné malgré un but encaissé sur la première occasion d'Aston Villa. Frayeur de courte durée avant 2 chefs-d'œuvre de Désiré Doué et Gvichak Kvaratskhelia pour prendre l'avantage. Leur partenaire Vitinha était aux premières loges.
Ouais, incroyable, ça fait plaisir qu'on envoie Dez, quoi là, fait des buts comme ça, c'est incroyable, on a des joueurs incroyables, ça fait vraiment plaisir.
Du talent, de la discipline et la cerise sur le gâteau, un 3e but inscrit par Nuno Mendes en fin de rencontre. Le défenseur portugais conscient qu'il pourrait bien faire la différence lors du match retour.
Ça nous donne un peu plus de confiance, je pense qu'on est bien. Mais il faut continuer, on a encore un match. Si on va là-bas, ils marquent en premier. Après, on va avoir des difficultés parce qu'ils sont à la maison.
Les Parisiens restent vigilants, mais avec 2 buts d'avance, ils se déplaceront à Birmingham la semaine prochaine avec encore plus de certitude.
Reportage au Parc des Princes de Cédric De Oliveira. Match retour donc de ce quart de finale. Ça sera mardi prochain à Birmingham. En cinéma, à 1 mois de l'ouverture de Sur la Croisette, les dirigeants du 70e Festival de Cannes dévoilent aujourd'hui la sélection officielle. Comme chaque année, une 20aine de films seront en compétition officielle, en lice pour succéder au film Anora, Palme d'Or 2024. La présidence du jury a été confiée à Juliette Binoche, l'une des stars françaises les plus connues à l'international, pour une édition de Cannes qui se déroulera du 13 au 24 mai. Et puis Iris Knobloch, présidente du Festival de Cannes, déclare en marge de ce festival qu'il a pris connaissance avec sérieux et détermination des recommandations de la commission d'enquête de l'Assemblée nationale, commission sur les violences sexistes et sexuelles dans le secteur de la culture en France. Voilà, il est pratiquement midi 10 ici à Paris, c'est la fin du journal. Tout de suite, 8 milliards de voisins avec vous, Emmanuel Bastide, bonjour.
Bonjour Gilles Moreau, 8 milliards de voisins, c'est parti dans quelques instants.